OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, du verset 9 à 20. Apocalypse 1, verset 9 à 20. Comment dit, on finit le chapitre. Lui, vous levez. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Si vous voulez vous asseoir. Alors, des fois, tu regardes un passage comme celui qu'on est en train d'étudier et tu essaies de trouver l'idée qui unit le texte. Moi, j'ai donné comme titre, parce que je pense que c'est ça qui unit le texte, puis c'est ça qui est le contenu de ce passage-là. J'ai appelé ça « La vision de Christ par Jean ». Non, parce qu'il voit Christ. Par Jean. Et il le voit sous différentes fonctions qu'il a dans l'Église. Premièrement, gouverneur. Deuxièmement, prêtre ou sacrificateur. Troisièmement, comme juge cosmique. Juge de l'ensemble de tout ce qui se passe à terre, et comme souverain tout-puissant. Alors, dans le fond, de 9 à 20, ça contient à peu près ça comme idée. Alors, c'est ça que j'ai donné comme titre. La vision de Christ par Jean, comme gouverneur, prêtre et juge cosmique, et souverain tout-puissant. Donc, ce qu'on va regarder dans les trois idées, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, on va regarder la vision de Christ par Jean, qui est inauguré. Autrement dit, il y a un début à tout, et le Seigneur va, avec Jean, va inaugurer quelque chose de nouveau. Il va lui faire voir des aspects de sa personne. C'est pas que Jean et les chrétiens du premier siècle ne connaissaient rien sur Jésus. Ils connaissaient des affaires. Mais dans les circonstances dans lesquelles ils étaient, ils avaient besoin de voir Christ vainqueur au ciel, tout-puissant, qui gouverne tout et qui est le prêtre. On va voir tout à l'heure pourquoi j'ai dit prêtre, parce que le prêtre, quel était le rôle du souverain sacrificateur une fois par année quand il rentrait dans le Saint des Saints? Quand il sortait, c'était à quoi? Bénir. Alors, et le juge cosmique, on va voir que là-dedans, il commence déjà à présenter Jésus comme le juge de tout ce qui se passe sur la terre, du mal qui se passe sur la terre, comme de quoi que Jésus va juger tout cela. Non seulement qu'il va juger le mal qui se passe sur la terre par les nations, mais il va juger aussi le mal qui se passe dans ces églises, comme on va voir un petit peu plus tard quand on va tomber. Quand il va parler à chacune de ces églises en particulier, il leur fait des compliments, mais il leur fait aussi des reproches et il leur fait des recommandations. Alors, c'est ça qu'on va voir, le Seigneur, quand on parle dessus. Alors, les chrétiens du premier siècle, la deuxième idée qu'on va regarder, c'est la vision de Christ par Jean qui va être initiée, et la troisième, la vision de Christ par Jean qui va être interprétée. Dans le verset 17 et 20, on a vraiment l'interprétation par Christ lui-même, quand on se demande c'est quoi les sept étoiles, puis c'est quoi les sept chandeliers, on pourrait partir dans toutes sortes de directions, c'est le Christ lui-même qui va nous donner la réponse. Alors là, en ce moment, on est certain qu'on ne fait pas des interprétations tout croche, parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne l'interprétation. Donc dans le verset 17 à 20, on a le Seigneur Jésus qui donne l'interprétation. Alors les chrétiens du premier siècle, on l'avait vu dans les leçons précédentes, souffraient beaucoup à cause de leur foi en Jésus-Christ et de leur refus d'adorer l'empereur romain qui, comme on vous l'avait dit dans les leçons précédentes, commençait à se penser qu'il était Dieu lui-même et demandait l'adoration. Les chrétiens qui résistaient, il y avait les juifs qui les dénonçaient, il y avait des problèmes sérieux dans la société, c'est toutes des grandes villes. Quand on regarde ça aujourd'hui, c'est des villes qui avaient peut-être 200 000 habitants. Alors, c'était comme des villes, un peu comme Québec. C'était gros. Et c'était plein d'idolâtrie. C'était plein de péchés sexuels. Alors, c'était extrêmement difficile, non seulement de résister à la culture ambiante, de ne pas faire comme eux autres, mais il y avait aussi l'idée de vouloir adorer les autres, ils refusaient. Et ça leur créait des problèmes extrêmement sérieux. Quels étaient ces problèmes-là? L'emprisonnement. Qu'est-ce qui arriverait à nous, jour au lendemain, si on commençait à nous menacer d'emprisonnement pour aller au culte? Il faut se placer dans le contexte de ce qu'ils vivaient. C'était des chrétiens comme nous. Ils vivaient que si tu ne voulais pas, ils t'envoyaient en prison. Est-ce que nous, aujourd'hui, si on nous disait... Je veux plus que tu ailles au culte ou sinon tu t'en vas en prison. Combien qu'il y en a qui continueraient à vouloir venir pareil? C'est là qu'on comprend un petit peu la situation dans laquelle ils étaient. Donc l'emprisonnement, il y avait le bannissement aussi. Le bannissement, c'était tout simplement de dire, tu nous déranges, on va te prendre, on va te mettre sur un petit bateau, on va t'emmener sur une petite île là, qui est vraiment isolée. Là, tu nous dérangeras plus parce qu'il n'y a personne sur cette île-là ou presque pas. Alors, le bannissement, on prenait tous ceux qui étaient des leaders. Jean était un grand leader. Donc, on prenait les leaders, on les envoyait dans des endroits comme ça. Donc, loin des yeux, loin du cœur, on se débarrassait de lui. Autre moyen, il y avait les mauvais traitements qui étaient de toutes sortes de nature. Physique, tu pouvais avoir des mauvais traitements économiques. On a parlé la semaine dernière que si tu avais un métier, tu fallait que tu fasses partie comme d'une union. Dans ce temps-là, il y avait comme l'équivalent de nos syndicats de nos aujourd'hui. Puis si tu ne voulais pas fonctionner avec ce que l'empereur voulait, ben tu ne pouvais plus gagner ta vie. Oh, comment ça va au problème? Ensuite, tu avais d'autres problèmes aussi, d'autres moyens de te mettre de la pression, la décapitation. Parce qu'on va voir un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui sont morts décapités. Décapités, ça veut dire qu'il y en a qui ont eu la tête coupée à cause du fait qu'il y avait la foi en Jésus-Christ. Donc, la décapitation, il y avait aussi la mort par les bêtes sauvages. On sait que les empereurs s'amusaient à faire des choses semblables. On a tous déjà vu des films où on met les chrétiens au centre et on fait sortir des lions affamés ou qui étaient littéralement dévorés vivants. On a d'autres endroits où on les attachait près des poteaux, on mettait de l'huile après, on les allumait comme des cierges. À quelque part, essayons de nous placer, si on veut comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut se rappeler ce contexte-là et que Jean s'adresse à ces gens-là qui avaient un besoin urgent d'être averti, d'être encouragé et d'être réprimandé lorsqu'il commençait à avoir du compromis. Il fallait qu'ils avertissent. Alors, tout ça, ça se passe dans ce temps-là. La mort par les bêtes sauvages, les poteaux du bûcher, et il devait avoir encore d'autres moyens. Dans le texte, j'ai marqué, etc., c'est parce que si on faudrait qu'on fasse la liste de tout ce qu'on avait comme problème à cause du fait qu'on vivait notre foi en Jésus-Christ, la liste est longue. Alors, bien entendu, le Seigneur aime ses enfants et il est miséricordieux envers son peuple. Et le Seigneur fait quelque chose. Commissionner quelqu'un, c'est de lui donner un travail, une job, une fonction. C'est, quand tu dis la commission, c'est Dieu te commissionne. Disons que Dieu a choisi l'apôtre Jean pour qu'il reçoive un message, qu'il leur fasse connaître des choses qui concernent Jésus-Christ. Si tu es dans une situation comme ça, puis tu, à un moment donné, tu ne comprends pas qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui est tout puissant, quelqu'un dans le ciel qui gouverne tout ce qui se passe, quelqu'un dans le ciel qui juge les péchés des hommes et qui juge les péchés dans son Église aussi. À quelque part, si on ne prend pas pleinement conscience de ça, je dois avouer que si j'avais été dans cette époque-là, j'aurais été complètement découragé. Complètement à terre, comme on dit. Alors, c'était leur cas. Alors, ils ont besoin, le Dieu donne par Jésus-Christ, commissionne l'apôtre Jean, il le charge et lui confie le mandat d'écrire la vision. Pas pour rien, il n'aurait pas pu juste dire. Il a voulu que ça soit écrit. Parce que ce qui est écrit là, c'est parce que ça a été écrit il y a longtemps. Mais Dieu voulait que ça soit écrit. Pour une raison bien simple, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, du 12e, 13e, 15e, 17e, 18e, 19e siècle, peu importe le siècle dans lequel vous avez vécu, si vous avez vécu des choses difficiles qui étaient un peu l'équivalent de ce que ces gens-là vivaient à l'époque, vous avez aussi besoin aujourd'hui d'entendre le même message. Alors, il lui écrit, il lui demande d'écrire la vision et lui donne... il lui parle de sa personne, il parle de lui-même. Christ permet que Jean voit un aspect de la personne de Christ. C'est pas qu'il connaissait pas Jésus, il connaissait les Écritures, les Juifs, là. Mais il avait besoin de se faire présenter. Pas pour rien qu'on l'appelle le livre de l'Apocalypse. En anglais, c'est Revelation. Une révélation, c'est enlever le voile sur quelque chose que tu n'as pas nécessairement vu jusqu'ici. Et là, tu veux que les gens comprennent. Donc, il veut que Jean et les gens qui vont lire le livre plus tard voient le Seigneur Jésus-Christ comme étant le gouverneur cosmique. Le gouverneur cosmique, là, c'est celui qui gouverne tout ce qui se passe, non seulement sur la Terre, dans toutes les dimensions de toutes les villes, mais cosmique, c'est, ça inclut tout ce qui se passe. On va voir éventuellement que les étoiles et tout ça, plus loin dans l'Apocalypse. Gouverneur cosmique, ça veut dire que c'est lui qui a la capacité de gouverner en détail tout ce qui se passe à tous les niveaux, sur tous les continents, dans toutes les villes de la Terre, mais aussi au niveau de l'univers. Donc, le gouverneur cosmique, et quand on dit le gouverneur absolu, ça veut dire qu'il n'y a rien que le Dieu, Jésus, s'il veut quelque chose, il a la capacité et le pouvoir d'exécuter sa volonté. Si on est découragé, là, puis qu'on prend conscience de ça, pensez-vous que ça nous encourage un petit peu? Ça nous encourage drôlement. Donc, absolu de son Église, qu'il en est le prêtre. Un prêtre, là, il faudrait... Une des raisons, j'avais déjà dit au début, quand on a commencé notre série sur l'Apocalypse, une des raisons pour laquelle on a de la difficulté à comprendre aujourd'hui l'Apocalypse, c'est notre ignorance des Écritures. Aujourd'hui, je veux pas vous blâmer d'aucune façon. C'est pas ça mon idée. Mais c'est un fait quand même. Il y a un affaiblissement de la connaissance de la doctrine en général dans les églises. Et on comprend même plus le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament. Parce que on recule dans le livre de l'Exode. Quand on a parlé le mercredi, là, Exode à partir du chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40, on parle du tabernacle, et à l'intérieur du tabernacle et de tous les accessoires qu'il y avait là-dedans, il y avait une fonction qui était celui de prêtre. Et le prêtre, il avait une fonction bien particulière. Il trimait, autrement dit, les lampes, là, l'huile à sujet, il fallait qu'il remplace l'huile. Puis quand les lampes, ils brûlent, un peu comme les anciennes lampes qu'on avait, là, ils venaient noirs. Hein. Si, à un moment donné, ils ne trimaient pas, la lumière a finissait par baisser. Il y avait cette fonction-là et bien d'autres fonctions. Pourquoi on parle de prêtre aujourd'hui? Nous autres, ça sonne quoi quand on dit le mot prêtre? Ça sonne catholique. Mais le mot prêtre, dans les Écritures, là, le sacrificateur avait un rôle très particulier. Et le souverain sacrificateur, celui qui rentrait dans le Saint des Saints une fois par année, c'est pour ça que plus on va connaître notre Bible, plus on va l'avoir lue, plus on va l'avoir étudiée, plus quand on va tomber dans un livre comme ça, ça va couler. Mais si on ne connaît pas ces passages-là, on va même utiliser des mots, on va dire « qu'est-ce qu'il veut dire? Tu s'en vas avec ça, lui-là. Tu s'en vas avec ça à cause de notre ignorance. » Donc, le prêtre, lui, il veille sur les chrétiens et il fait plusieurs choses. On a vu qu'il y a quatre fonctions pourquoi l'Apocalypse était de nos chrétiens du premier siècle. Ils sont ici. Là. Il veille sur eux en les encourageant. Il y avait besoin d'être encouragé, ces gens-là. Si vous seriez dans une situation similaire, comme on a dit tantôt, vous apprécieriez beaucoup que quelqu'un vienne vous encourager. Ensuite, les corriger. Pourquoi les corriger? Parce que déjà, dans les églises, il y avait des gens qui commençaient à faire du compromis. Ils y allaient dans des temples d'idoles. Ils commençaient à faire des choses que les païens faisaient par contagion. Le péché, c'est contagieux. Puis nous aussi, dans le 21e siècle, il faut faire attention parce que le péché est répandu à tellement grande échelle et toutes les formes de péché sont de plus en plus encouragées, de plus en plus considérées comme normaux, et on pousse de plus en plus toutes ces choses-là qui sont des anormalités et des péchés très graves aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on veut les présenter comme s'il n'y avait rien là. Alors, on a besoin d'être corrigés. Eux avaient besoin d'être corrigés. Même aujourd'hui, nous autres aussi, on a besoin d'être corrigés. Et troisième chose, troisième rôle, exhorter. Si tu verrais quelqu'un que tu connais qui est un chrétien, qui s'en irait dans l'idolâtrie, iras-tu le voir puis dire, « Hey, fais pas ça! Tu fais de l'idolâtrie, là. Tu tombes d'un péché, tu vas t'enliser, c'est dangereux ce que tu fais là. » Alors, il y avait besoin de se faire... On va le voir quand on va arriver dans les messages aux églises, que le Seigneur fait ça. Il les exhortait. Et aussi, il les avertissait. Tout à l'heure, je vous parlais de ça. Là. Qu'est-ce que je fais, là? Je vous avertis. Avertir quelqu'un, c'est de lui dire, il y a un danger qui s'en vient, fais attention. C'est ça que le Seigneur faisait pour ses élus, pour ceux qui aimaient dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il fait ces quatre choses-là, il les encourage, il les corrige, il les exhorte, il les avertit, et aussi comme juge souverain. Qu'est-ce que c'est un juge souverain? Un juge, quand on parle de Jésus, on ne parle pas des juges humains là, qui se laissent passer n'importe quoi, puis sont achetés par les avocats, puis des petites enveloppes brunes d'un bord et de l'autre. Avec le Seigneur, les enveloppes brunes, ça ne marche pas. Là. Alors, le Seigneur, il juge justement. Il voit absolument tout ce qui se passe à tous les niveaux, dans toutes les églises, dans toutes les sociétés, dans toutes les villes. Il voit tout dans les moindres détails. Et il arrive un temps, le Seigneur est très patient. Il patiente, il patiente, il patiente, il patiente. Mais quand la masse tombe, là, jugement. Le jugement, il est sévère. Alors, le jugement, faut se dire ici qu'il n'est pas seulement le juge des péchés du monde qu'il y avait à cette époque-là, mais il est aussi le juge de nos péchés. Dans le sens que nous, on n'est pas condamnés, qu'on n'ira pas en enfer à cause de nos péchés, mais il va juger nos péchés dans le sens que s'il nous voit faire des choses, il ne nous laissera pas là-dedans, il va nous corriger. Et c'est une bénédiction qui nous corrige. Donc, le juge souverain. Un juge, disons un être humain, un chrétien qui serait droit, qui serait sanctifié, pourrait jouer le rôle de juge. Mais quand il va donner sa sentence, est-ce qu'on a le pouvoir de faire exécuter la sentence? Le problème, c'est que les hommes n'ont pas le pouvoir souvent de faire exécuter des sentences. Mais quand on parle de Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Et tout ce qu'il décide et tout péché qu'il juge, autant dans ses élus que dans les nations qui font des péchés, il a le pouvoir de l'exécuter. Prenons un exemple. Ananias et Saphira, dans le livre des Actes. Deux chrétiens, ils pètent de la broue au Saint-Esprit. À nos yeux, hein, des fois, on se dit, on voit tout ça comme méritant la mort. Soyons sincères, là. Est-ce qu'on voit ça comme méritant la mort? Il y en a un qui a vendu sa terre, il s'est arrangé avec sa femme, il dit, disons, on a eu 100 000 pour la terre, on va dire qu'on a eu 80 000. On va garder 20 000, puis on va dire aux apôtres, puis à tous les autres chrétiens, « Oh ben, je donne tout le prix de ma terre. » Tu mens. Mais tu mens. Là, tu mentais au Saint-Esprit, puis mentir à Dieu, c'est extrêmement grave. Dieu les a tués, tous les deux. Lui, puis sa femme après. Ça, c'est un exemple de jugement. Quand on parle de jugement, Dieu fait la même chose dans nos vies de nos jours. Si vous abusez, il peut vous juger de façon très sévère. On livre, quand on fait le repas du Seigneur, qu'est-ce que c'est en train de nous rappeler? Le Seigneur, il rappelle que ceux qui prenaient le repas du Seigneur de façon injuste, étaient malades, étaient infirmes, et il disait qu'il allait jusqu'à la mort aussi, il punissait jusqu'à la mort. Alors, il le juge. Le Seigneur, Jésus, il sert de gens pour que ses enfants prennent pleinement conscience de tous ces faits-là que je viens de vous dire. Il veut leur rappeler que lui, lorsqu'il est venu sur la terre, il a vaincu Satan. Il a vaincu non seulement Satan, mais la mort. Autrement dit, il est en train de leur rappeler que même si tu te dois de te rendre jusqu'à la mort pour garder ta foi, garde-la parce que tu es vainqueur, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce qui va se passer après. Tu sais déjà ce qui va se passer après comme un chrétien. Alors, l'apôtre Jean veut que les autres croyants réalisent que, comme eux, il a part à la tribulation et au règne, à la puissance et à la patience de Jésus-Christ. Si vous remarquez, il ne leur dit pas « Moi, Jean, le grand, l'apôtre qui a vécu à côté de... » Il se présente à eux comme « J'ai part à ce que vous autres, vous vivez. » Oui, je suis un apôtre. Oui, j'ai été privilégié. Mais il ne se présente pas à eux avec autorité. Il se présente à eux comme un frère qui souffre en même temps qu'eux autres, les mêmes choses qu'eux autres. Alors, bien entendu, la participation au règne de Christ consistera donc pour le moment. Il veut leur rappeler cette histoire-là. Que la participation au règne de Christ, quand il dit, on relit le verset 9, il a part à la tribulation et au règne. Vous allez me dire, comment il participe au règne? Quand tu règnes, là, les gens ne t'envoient pas en prison, ils ne t'envoient pas en bannissement. À ce moment-là, il veut dire quoi le mot règne? Là? Il est en train de dire que la participation au règne de Christ, pour les années qui s'en viennent, à cause de la décision de Dieu, consistera pour le moment à endurer fidèlement la tribulation. Autrement dit, ce qu'il vivait, là, préparez-vous à l'endurer fidèlement, de la même manière que lui l'a enduré fidèlement lorsqu'il est venu. Il était un roi tout-puissant quand il est venu sur la terre. Dieu incarné dans une chair d'homme, pourtant, quand vous regardez tout ce que lui a fait subir. Alors, bien entendu, Christ règne réellement à travers et au moyen de cette tribulation. C'est ça qu'il veut qu'ils prennent conscience. Même si ça n'a pas l'air de, que vous régnez, vous régnez à travers ces choses-là. Parce que même si les païens décident de vous enlever la vie, vous êtes victorieux, parce que je suis victorieux à cause de ça. Alors, il veut qu'ils prennent conscience que la tribulation qu'ils vont vivre, le Seigneur règne et il continue de bâtir son Église à travers ces souffrances-là, à travers ces souffrances-là, malgré l'opposition. Alors, on commence le premier point, la vision de Christ par Jean qui est inaugurée. Alors, on relit le passage. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et l'envoie aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc, il veut leur faire prendre conscience que le règne que Jésus a commencé, mais que ça va se réaliser à travers les tribulations. Donc, lui, il veut leur dire, je ne fais pas juste vous avertir, moi, étant dans un siège social, dans le confort, puis je vous avertis de ce qui s'en vient, il a peur. Lui aussi, il connaît ce qu'il vit. Il connaît très bien ce qu'il vit. Alors, Jean, il se présente pas aux chrétiens qui souffraient, avec l'autorité de l'apôtre qui a été témoin de tout le ministère de Christ lors de sa première venue. Il veut communiquer avec ses frères sur la base de sa participation comme égal et compagnon. C'est comme il est en train de leur dire, je ne suis pas juste l'apôtre qui est au-dessus. C'est sûr qu'il avait un rôle au-dessus parce qu'il n'avait pas été nommé apôtre. Il y a quelque chose de prestigieux de rattacher au fait d'être un apôtre. Mais il leur dit, je suis comme vous. Je suis je participe comme égal et comme compagnon à la tribulation. Donc, il connaît les mêmes souffrances et les mêmes difficultés. Ses frères et ses sœurs savent que Jean a été banni et exilé sur l'île de Patmos. C'est intéressant, j'ai fait des recherches un petit peu, j'aurais pu donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur l'île et vous montrer des photos, des diapositives, et voir la population aujourd'hui, où c'est situé. Très intéressant quand on fait l'étude, là, c'est intéressant, mais je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. Mais la seule chose que j'ai gardée, c'est que l'île de Patmos, c'est située, c'est une île de la mer Égée, près de la Grèce, et sa superficie, elle a 15 km sur 10. 15 km de long, c'est à peu près quoi, 8-9 000, par 10, donc 6-7. C'est pas comme 17 dans la mégantique. C'était pas une grosse île. C'est une île très rocailleuse. C'est une île où il y avait des gens déjà à l'époque. Il y en a qui disent que c'est une île qui servait pour envoyer... Il y avait des mines là-dessus, puis que les personnes qui étaient envoyées là devaient servir dans des mines. Mais quand on lit les commentaires, tout le monde dit « on n'est pas sûr de ça ». Il y en a qui disent ça. Alors, c'est... Autrement dit, il est envoyé sur une île où il y avait un petit peu de monde, mais c'était juste pour se débarrasser d'eux. Donc ça, c'était pour l'histoire de Patmos. Et quand qui a reçu ce message-là de Dieu, c'était le jour du dimanche. Samedi, le jour, je fus ravi en esprit. Donc, dans le verset 10, on parle qu'il va inaugurer aussi par la prophétie. Donc, le Seigneur va se servir de Jean comme d'un instrument prophétique. Il veut faire connaître sa volonté, son rôle, son contrôle, et certains éléments concernant l'avenir de son Église et de ses ennemis. Et Jean reçoit son message le dimanche, dans le texte, c'est le jour du Seigneur. Donc, quand on parle d'instrument prophétique, c'est qu'il est en train de dire que tout ce qui va se produire dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont lointains. Donc, c'est de la prophétie. C'est pas Jean qui a deviné ça par lui-même, là. C'est Dieu qui lui a ouvert les yeux spirituels pour qu'il voie des choses qui vont se passer dans l'avenir. Comment il va vaincre ses ennemis, comment ses ennemis vont s'organiser, etc. Il est intéressant de noter que les versions de la Bible varient quant à l'expression « en esprit ». Il y a certaines versions qui vont utiliser « en esprit » avec un « e » minuscule, puis d'autres versions qui vont utiliser « en esprit » avec un « e » majuscule. Ça, des fois, dans le grec, c'est pas toujours évident de choisir un « e » minuscule ou un « e » majuscule. C'est une interprétation que tu fais à partir du mot dans le grec. Alors, l'auteur William Hendrickson, que plusieurs d'entre vous ont lu, décrit cet état extatique de la manière suivante. Autrement dit, il dit que Dieu permet que Jean il tombe comme en extase. Dieu lui ouvre ses yeux spirituels pour qu'il voie des choses que normalement on ne voit pas avec nos yeux et qu'il voie des choses qui vont se dérouler dans le temps et dans l'espace. Parce que là, il parle de tout ce qui va se passer sur toute la terre. Lui, il est sur une petite île. Alors, il fallait que ça soit une vision spirituelle. Alors, voici que la manière dont William Hendrickson explique ça, il dit. Mais soudain, il parle de Jean, mais soudain, la terre lui paraît se dérober sous les pieds. L'horizon s'estompe et son âme semble libérée des limites de temps et d'espace. Il perd le contact avec le monde physique qui l'environne. Il est en esprit. Il voit, certes, mais non plus avec ses yeux. Et il entend, mais non pas avec ses oreilles. Il est en contact spirituel, direct, avec son Sauveur. Il est seul avec Dieu. Tous ses sens sont en éveil et chaque parcelle de son âme est largement ouverte à cette communication directe offerte par Dieu. Paul dit qu'il y a eu une affaire semblable aussi, hein, qu'il dit qu'il était ravi aussi. Alors, ça doit être... Il n'y a pas beaucoup de monde dans les chrétiens qui ont connu cet état-là. Là. Moi, je n'ai jamais connu ça. Si vous l'avez connu, vous viendrez m'en parler, ça m'intéresse. Alors, Jean entend derrière lui une voix forte comme celle d'une trompette. Imaginez-vous, vous êtes sur une île, là, vous perdez le contact avec la réalité, mais vous entendez une voix forte qui est aussi forte que celle d'une trompette. Ça veut dire une trompette, quand ça joue fort, ça secoue un peu. Alors, dans la période de l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu voulait dire quelque chose à son peuple, il le rassemblait au son de la trompette. Et là, vous pourriez aller voir toutes sortes de passages où, quand Dieu voulait parler à son peuple, il y a le moyen utilisé pour rassembler son peuple, c'était la trompette. On l'a dans Exode 19, Lévitique 25, Josué 9, Ésaïe 58 et d'autres passages. Ici, toutefois, c'est pas marqué que c'est une trompette, mais c'est marqué comme celle d'une trompette. Il y a quelque part, lui, il entend comme si c'était une trompette. Et il lui dit, l'inauguration va se faire par proclamation. Cette voix-là lui parle, et là, elle lui dit qui il est. Je suis Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Et là, il lui tient à ce que le message soit écrit dans un livre. Il dit, ce que tu vois, donc il voyait des choses, mais avec ses yeux spirituels. Dieu permettait qu'il voie des événements qui étaient pour se dérouler dans le temps et dans l'espace. Il les voyait avec ses yeux spirituels. Écris-le dans un livre. Et là, pourquoi qu'il voulait qu'il écrive ça dans un livre? C'est pour les églises. Dieu aime son peuple. Et là, il énomme les églises. Les sept églises qui sont en Asie, alors La plupart des commentateurs disent qu'il s'adresse à l'Église universelle du monde entier. Non seulement, oui, d'une façon particulière à ces églises-là, dans ces villes-là, à cette époque-là, mais par extension, toutes les églises du monde, pour rien qu'ils utilisent le chiffre 7, qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Le Seigneur rappelle à Jean par quelle autorité il parle et agit. T'entends une voix, là, c'est la voix de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toute chose. Tout ce qui se passe entre quand Dieu a décidé de créer et tout ce qui va se passer jusqu'à la fin, il est au contrôle, il est l'alpha, le premier et le dernier. Donc, autrement dit, tu es en train de dire, je suis la source et la fin de toute chose. Ça, c'est intéressant de se faire dire ça, tu entends ça, là? Autrement dit, tu es en train de dire, c'est moi le boss. Puis ce qui se passe, je sais ce qui se passe, puis je suis au contrôle parfait de tout cela. Alors, la volonté de permanence du message et de son universalité pour les églises est indiquée par le commandement du Seigneur d'écrire la vision et de le faire parvenir aux églises. Il n'a pas juste voulu que Jean sache ça. Il aurait pu le faire. Juste le dire à Jean. Organise-toi pour que ce message-là, ça se rende dans les églises. Et pensez-vous qu'il ne... Quand les gens ont reçu la lettre, ils savaient que ça venait de Jean. Jean est un bien-aimé, était un peut-être des chrétiens les plus connus de toutes ces églises-là. Toutes ces églises-là connaissaient Jean. Quand tu reçois une lettre d'un bien-aimé là, en qui tu as pleinement confiance, d'où tu as les deux oreilles ouvertes, hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, la deuxième partie, verset 12 à 16, a vraiment l'idée de la vision de Christ qui est initiée. Et là, ça dit dans le verset 12. « Alors, je me retournai, et entendu, t'entends la voix en arrière de toi. » Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes de bord, tu veux savoir c'est qui te parle. « D'où venait la voix qui me parlait. » Et m'étant retourné, je vis... 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. C'est là qu'on voit le rôle de prêtre. Le prêtre dans l'Ancien Testament avait une robe jusqu'à terre, jusqu'aux pieds. Le sacrificateur, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Et saint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Alors, tout ça, il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Pourquoi sous la poitrine? Quand vous étudiez un livre comme ça, puis vous allez commencer à fouiller, vous vous rendez compte jusqu'à quel point c'est riche, la parole de Dieu. Et tous les mots ont un sens et chaque... Alors, ce qu'on veut regarder dans le verset 12 et 13, c'est que l'initiation de Jean à l'Église et à la personne glorifiée du Christ. Les 7 chandeliers d'or constituent le premier élément de la vision de Jean. Le chapitre 20, le verset 20, c'est-à-dire du chapitre 1, nous donne l'interprétation à donner aux 7 chandeliers d'or. Dans 1:20, ça dit, « Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » Quand on parle d'interprétation, il ne nous laisse pas... mettez ça à votre... Interprétez-le comme vous voulez. Là. Le chandelier, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà étudié le tabernacle, dans le tabernacle, dans la partie, le saint, il y avait deux parties là-dedans, séparées par un rideau, celle complètement au fond, dans laquelle il y avait le propitiatoire, c'était le saint des saints. Mais dans la partie avant, tu avais trois choses qui étaient présentes là. Tu avais un chandelier d'or, comme ça, à 7 branches, qui est le symbole des Juifs. Les Juifs utilisent encore ce symbole-là. Alors, le chandelier n'est pas une idée nouvelle dans le livre de l'Apocalypse. Nous le trouvons également dans le tabernacle de l'Ancien Testament. Dans le tabernacle, il y avait un seul chandelier à 7 branches, tel qu'illustré. J'ai mis une illustration pour qu'on fasse la différence entre... Le chandelier de l'Ancien Testament du tabernacle, qui était sur cette image-là, avec ce que l'apôtre voit. Parce que dans l'Apocalypse, on trouve 7 chandeliers. Donc, c'est plus un chandelier à cette branche. Le symbole du chandelier à cette branche dans l'Ancien Testament, c'était le peuple juif qui est éclairé par Christ et qui conduit son peuple dans la lumière. Mais c'était le peuple juif, un. Quand il voit ici, il voit Christ au milieu de sept chandeliers d'or. Si vous regardez l'image, on voit que ce n'est pas un chandelier comme celui du tabernacle. C'est sept chandeliers d'or. Et le Seigneur lui dit que les sept chandeliers, c'est les sept églises. Alors, William Hendrickson explique la différence entre le chandelier de l'époque de l'Ancien Testament dans le tabernacle et celui que Jean voit là. Il dit que cette différence s'explique par le fait qu'au cours de l'ancienne dispensation de l'Ancien Testament, existait une unité visible, l'Église. En effet, se confondait avec l'État juif. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, vous avez le chose à sept branches qui représentait l'Église, mais dans l'Ancien Testament. Tandis qu'ici, on a une image complètement différente, c'est que les chandeliers sont autour de Christ. Se confondait avec l'État juif. Les églises de la nouvelle dispensation connaissent, elles, une unité spirituelle en Christ qui est présent et actif parmi elles par son esprit. Voyez-vous, la différence de symbolisme est très forte. Alors, les chandeliers d'or sont pour indiquer pourquoi il prend un chandelier puis pourquoi il est en or. L'or a toujours été, au cours de l'histoire des hommes, un symbole de perfection. Quand tu veux donner quelque chose de qui a beaucoup de valeur à quelqu'un, la preuve, c'est quand tu veux te marier, souvent, tu vas acheter une bague en or. Pas une bague en n'importe quel métal, de l'or. Et ça représente aussi la pureté. Ça représente quelque chose de précieux. Et ça représente quelque chose d'incorruptible. L'or est incorruptible. Et ça représente aussi quelque chose qui est impérissable, l'impérissabilité. Pourquoi avoir choisi l'or? Autrement dit, aux yeux de Christ, les sept églises, à ses yeux, sont parfaites. Pourquoi parfaites? Est-ce qu'elles ne font plus de péché? Elles sont parfaites en lui. Et ils sont purs, ils sont à ses yeux, ils sont extrêmement précieux. Incorruptible et impérissable. Autrement dit, les églises de Dieu, ils vont se rendre jusqu'au bout. Peu importe les nations vont décider. Alors, ça dit, l'expression « quelqu'un de semblable au Fils de l'homme » semble tirer son origine du livre de Daniel. Parce qu'il dit qu'il voit au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme. Et si vous allez voir dans les Écritures un petit peu d'où vient cette expression-là, quand Jésus est venu sur la terre, il utilisait cette expression-là pour parler de lui-même, le Fils de l'homme. Quand vous allez dans Daniel 7, livre de Daniel, puis le livre de l'Apocalypse, on va voir que c'est l'un fait souvent référence à l'autre. Alors, dans Daniel 7, versets 13 et 14, « Je regardais dans ses visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, il vint jusqu'à l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. » Dans le contexte de Daniel 7, on est en train d'une prophétie concernant Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Jean, il voit le Christ glorifié dans sa forme humaine, parce que ça dit « comme le Fils de l'homme ». Mais cependant, il y a quelque chose de particulier comme forme humaine, il est accablant de gloire. On a parlé de la gloire, c'est l'expression simultanée de l'ensemble des attributs de Dieu. Et d'apparence brillante comme le soleil. Pour dire une affaire, là, si on verrait cette image-là, là, mais vraiment dans la réalité, et que la personne brille comme le soleil, là, pas pour rien qu'il est tombé, hein? Il avait la peur, il a eu la crainte de sa vie, autrement dit. Alors, il voit Christ glorifié dans sa forme humaine, mais accablant de gloire. Accablant, ça veut dire, t'es pas capable de stander ça, c'est trop fort pour toi. C'est un peu comme quand tu regardes le soleil, dans sa force. Quand le soleil, à midi, là, t'essaieras de lever la tête, là, puis le regarder longtemps. Tu le regarderas pas longtemps, je te jure. C'est la même chose. Il était accablant de gloire et il avait une apparence brillante comme le soleil dans toute sa force. Imaginez-vous, Jean, la bénédiction qu'il reçoit de Dieu pour toutes ces choses-là. Alors, on va juste terminer ce petit chapitre-là, là, et après, on va arrêter là. La manière dont il est vêtu est hautement significative, parce que ça se dit qu'il est vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Tout semble indiquer un rappel au rôle de prêtre ou souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, avec la longue robe et ceint d'une ceinture d'or à la poitrine. Le grand érudit et pasteur baptiste John Gill, j'aime beaucoup John Gill, pas pour rien que c'est dans le texte, parce que j'ai sorti un petit peu de mon commentateur, et je suis allé voir ce que John Gill disait là-dessus, mais ça m'intéressait. Le grand érudit et pasteur baptiste John Gill, qui a vécu entre 1697 et 1771, dans son commentaire sur l'Apocalypse, fait observer les faits suivants venant de Josephus. John Gill, c'est la seule, en tout cas, je ne suis peut-être pas la seule, je ne sais pas, il faudrait que je fasse ça, mais il a écrit l'équivalent d'au moins une page par verset de tous les versets de la Bible. Quand on parle d'un grand érudit, là, ça devenait à un. Alors lui, il voit l'expression de la ceinture et tout ça. Il dit « La ceinture de Christ en tant que roi est la ceinture de fidélité et de justice qui concerne ses reins. Et sa ceinture en tant que prophète, est la ceinture de la vérité. Mais en tant que prêtre, c'est la ceinture de l'amour. Pourquoi est placée à hauteur du cœur? Pour parler que c'est le prêtre de l'amour. En tant que prêtre, c'est la ceinture de l'amour. C'est ce qui l'a contraint à se mettre à la place de son peuple, à en assumer la nature, à s'octroyer un sacrifice pour lui, et à intercéder en leur faveur. Il veut nous rappeler qu'il nous aime, mais qu'il continue comme prêtre. Un prêtre, là, ça intercédait pour le peuple. Et il continue d'intercéder, ça nous le dit dans le Nouveau Testament. Donc, intercéder en leur faveur, c'est comme une ceinture qui va d'éternité en éternité. Elle est dite d'or à cause de son excellence, de sa pureté, de sa gloire et de sa durée. Et elle est portée près de où se trouve le siège de l'amour. Et cela peut aussi dénoter le pouvoir, la force et la volonté de Christ d'assister et d'aider ses églises en cas de besoin. On en dit, c'est le prêtre qui intercède pour vous, mais il ne l'avait pas à cette hauteur-là, pour pas un hasard. Chaque mot des Écritures, c'est significatif, c'est symbolique. Alors moi, j'ai pris son interprétation en anglais, je l'ai copié dans Google, je l'ai traduit, et ça a été corrigé, là, jusqu'à ce que c'était un petit peu trop carré, là. Mais ça fait quand même une job. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui, et on terminera la prochaine.